qui écoute le 5-7 de France Inter.
À demain.
Un merci immense pour votre fidélité. France Inter, il est 13h. Le journal vous est présenté par mon ami Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour ma chère Karine, bonjour à tous. À la une, le repentito italien, bientôt en version française. Éric Dupond-Moretti veut créer un statut du repenti plus efficace en France. Nous irons en Italie voir à quoi ressemble ce statut. Éric Dupond-Moretti annonce plus globalement une nouvelle stratégie contre les narcotrafiquants. Le détail de ces mesures dans un instant avec Sarah Guibaudot. Et puis la réaction de notre invité, le sénateur socialiste Jérôme Durin, le président de la commission d'enquête sur le narcotrafic en France. Dans ce journal également, l'autodérision de Joe Biden sur son âge, vous l'entendrez. Et puis le sport en France, avec cet après-midi la demi-finale retour de la Ligue des Champions, c'est du football, PSG contre l'OL, la Ligue des Championnes. Et puis, avec ce temps maussade, nous verrons que les maraîchers font grise mine, nous irons vérifier ça au marché de l'Île-Dieu en Vendée. Et pour compenser cette grise mine, il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Invitation au voyage dans la petite maison dans la prairie. La cabane en bois a été reconstruite en Bretagne. Émotion garantie.
Il y a des personnes qui rentrent et qui pleurent, quoi. Et quand on ressort, on a l'impression de prendre une bombe de société en pleine figure. On se dit, mais ouais, mais c'est pas possible, quoi. Cette maison-là, c'est un havre de paix.
Et après ce journal, l'esprit sport, Nathalie Yanetta.
Vous avez besoin de soleil, comme nous tous. Et bien alors, ça tombe bien, parce que notre invité du jour, le vice-champion du monde de judo, Aurélien Dies, va vous en donner, et pas qu'un peu. Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, Nathalie. Enfin, le temps de ce dimanche, c'est Linda Costa. Toujours ses averses sur l'est du pays.
Oui, et ça continue cet après-midi. Des averses soutenues, surtout sur les Cévennes, on attend de bons cumuls.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Voilà donc un ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui décide de s'attaquer frontalement au crime organisé avec un projet de loi en préparation. Le garde des Sceaux joue donc sa propre partition, alors que Gérald Darmanin poursuit ses opérations Place Nette et que le Premier ministre prépare un nouveau plan Stup. Prochain projet de loi donc d'Éric Dupond-Moretti sur la criminalité organisée. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Chef du service police-justice de France Inter. Eh bien, ça passera par un nouveau parquet national anticriminalité organisée, un PACNO.
Oui, sur le modèle du parquet national financier ou du parquet antiterroriste, ce nouveau parquet donnera plus de pouvoir et peut-être de moyens à la juridiction spécialisée qui existe déjà au sein du parquet de Paris avec 22 procureurs et 9 juges d'instruction pour démanteler les plus gros réseaux et aller chercher leurs chefs, souvent à l'abri au Maghreb ou dans les pays du Golfe. Ce nouveau parquet pourra mieux coordonner le travail des JIRS, les juridictions spécialisées en région, mais les magistrats ont aussi besoin d'enquêteurs, policiers, gendarmes, douaniers qui manquent aujourd'hui.
Alors, outre ce PNACO, Sarah, le garde des Sceaux annonce aussi d'autres mesures qui étaient attendues par les magistrats, comme par exemple l'extension de la cour d'assises spéciale.
Oui, cela veut dire que ce ne seraient plus des citoyens tirés au sort qui jugeraient les règlements de compte, les assassinats liés au trafic pour éviter les pressions. Une association de malfaiteurs liée à la criminalité organisée sera créée, passible de 20 ans d'éclusion. Le garde des Sceaux évoque aussi le statut du repenti qui permet d'échanger une protection, un changement d'identité, une réduction de peine contre des informations. Un texte a été voté en 2004. N'est appliqué que depuis 2014 et très peu utilisé, jugé trop restrictif, peu lisible. On a vu des repentis condamnés parfois plus lourdement que ceux qu'ils avaient dénoncés et mis en danger, d'où ce projet de réforme pour rendre le dispositif plus efficace et l'élargir, y compris aux suspects de meurtre.
Le repentito italien, donc version française. En Italie, ce programme de protection existe depuis les années 80. À Rome, Blandine Hugonnet.
Cela fait plus de 40 ans que le pentito, le repenti italien, est reconnu par la loi ici, appliqué spécifiquement aux mafieux à partir des années 90. Et depuis, les cas de mafiosi qui brisent à la fois l'omerta et les liens avec leur clan se sont multipliés. Alors selon la loi italienne, pour le criminel condamné ou incarcéré, qu'il soit complice ou auteur de crime, le statut de collaborateur de justice peut être accordé en échange d'informations. Si elle s'avère fiable, nouvelle, complète et déterminante pour les enquêtes ou les procès, le repenti bénéficie d'une réduction de sa peine et d'une protection de l'État, avec nouvelle identité, nouveau lieu de vie, ainsi qu'une aide économique et à la réinsertion. C'est le programme pensé par le célèbre juge antimafia Giovanni Falcone pour inciter les boss à parler. Aujourd'hui, environ un millier de repentis et 5000 membres de leur famille sont sous protection des autorités. Système efficace mais critiqué aussi en Italie par les familles des victimes de la mafia, choquées de savoir les meurtriers libérés et protégés par l'État italien. Rome, Blandine Gonnet, France Inter.
Et bonjour Jérôme Durin.
Bonjour.
Vous êtes sénateur, socialiste, président de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France et vous rendrez vos conclusions à la mi-mai. Toutes les pistes avancées ce matin par Éric Dupond-Moretti, est-ce qu'elles sont bien réclamées par l'ensemble des magistrats ?
Oui, tout ce qui est proposé aujourd'hui est bon à prendre. D'ailleurs, c'est des réflexions que nous avons eu l'occasion d'échanger lors des nombreuses auditions que nous avons conduites pour la commission d'enquête. Donc, ce sont des sujets qui sont sur la table. Il est utile de repenser le dispositif de repenti dont on sait qu'il ne fonctionne pas suffisamment bien, il traite pas suffisamment de cas. Nous, on voudrait en France avoir des repentis gentils d'une certaine manière, c'est-à-dire que ceux qui sont les plus gravement mis en cause pour des actes graves ne sont pas pris en compte dans le dispositif. Or, c'est souvent ceux-là qui ont des choses intéressantes à dire. Et pourquoi on a besoin des repentis ? C'est parce que le renseignement humain est très important dans le narcotrafic, parce qu'on sait que technologiquement, nos services d'enquête sont parfois bloqués par des messageries cryptées, par exemple. Oui. Donc, c'est un dispositif qui est utile.
Cette idée du repenti, c'est la solution aussi contre l'omerta qui prévaut donc toujours dans ce crime organisé en France ?
Oui, à condition qu'on règle dans le projet de loi qui est annoncé par le garde des Sceaux quelques problèmes. Aujourd'hui, on n'est pas, et votre...
Sarah Guibaudot, la chef du service police-justice,
l'a dit, on ne peut pas garantir aux criminels qui voudraient s'associer à la justice d'avoir des exemptions ou des réductions de peine réelles, suffisantes. Il y a un problème de travail aussi entre justice et police, donc c'est un dispositif qui chaote un peu et qui mérite d'être amélioré. Alors, il faut quand même dire que tout ça ne suffira pas, parce que il est parti un peu en solo, notre garde des Sceaux, sur cette affaire. Il y a d'un côté Placenet, où on fait le ménage sur le terrain, et puis, lui veut s'intéresser au haut du spectre, comme on l'appelle dans le jargon du narcotrafic, ce serait bien que l'État parle d'une seule voix et qu'on ait un plan d'ensemble. C'est un peu le sens de ce qu'on va proposer le 14 mai.
Quand vous rendrez vos conclusions, c'est au Premier ministre, Gabriel Attal, peut-être, d'arbitrer en ce moment, justement pour choisir entre les différents textes individuels ?
Tout à fait, et puis d'articuler une philosophie de lutte contre le narcotrafic. Gérald Darmanin nous explique qu'il ne faut pas faire de pénal et d'enquête au long cours. Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à la proximité, au terrain et au point de deal. Le garde des Sceaux nous parle du haut du spectre. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi du renseignement qui est très utile, qui est du côté du ministère de l'Économie et des Finances, hein, je pense aux douanes ou à Tracfin. Donc, il faut un chef d'orchestre. Et si on veut coordonner, puisque c'est le terme à la mode, il faut une vision d'ensemble. Et je crois que c'est cette vision d'ensemble qui manque. Donc, ce que propose le garde des Sceaux, c'est sans doute utile, mais il faut que ce soit mis en perspective et que ce soit porté par tout le monde.
Vous êtes en train de nous dire que ce que présente ce matin dans la tribune dimanche Éric Dupond-Moretti, ça pourrait faire doublon avec les réformes que vous allez présenter à la mi-mai, le 14 mai, je crois.
En tout cas, je pense qu'on ira plus loin et dans une vision plus large et plus coordonnées. Le but du jeu, c'est de répondre aussi, par exemple, à l'inquiétude des magistrats qui avaient été manifestés à Marseille, hein, qui s'étaient d'ailleurs fait un peu tenser par le garde des Sceaux, qui demandent aussi des moyens. C'est-à-dire qu'il faut des dispositifs particuliers, le PNACO, les repentis, les cours d'assises. Puis il faut aussi des moyens ordinaires pour qu'on ne s'en prenne pas seulement aux lampistes, mais qu'on ait vraiment de quoi aller chercher les têtes de réseau qui sont à l'étranger et puis ceux qui pilotent réellement les trafics. Donc, c'est un travail d'ensemble.
Ce PNACO, ce projet de parquet spécialisé contre le crime organisé, ça va demander des moyens humains supplémentaires. Il faudra aller les chercher où, ces moyens supplémentaires ?
L'économie de la drogue, c'est 3, 4, 5 milliards d'euros en France. On a des saisies et des confiscations qui peuvent rapporter beaucoup d'argent à l'État. On a de quoi financer, si on tape au portefeuille les criminels, tous les moyens nécessaires. Et de toute façon, soit c'est une priorité nationale et on se met d'accord pour trouver les moyens, soit on dit que le narcotrafic, c'est dangereux et on laisse faire. Donc les moyens, ils seront nécessaires. dans la justice et dans la police.
Éric Dupond-Moretti plaide aussi ce matin pour une coopération européenne, internationale plus poussée. Que peut-on faire de mieux dans ce domaine ?
Continuer à avoir un échange exigeant avec certains États dont on sait qu'ils ne sont pas toujours coopératifs. C'est le cas du Maghreb, c'est le cas de Dubaï. Donc il faut continuer à mettre là-bas des agents de liaison, des magistrats de liaison, des douaniers pour faciliter les procédures et encourager ces États à nous aider à rapatrier chez nous les auteurs de crimes qui sont au soleil et qui profitent de leur argent.
Et j'ajoute une première réaction syndicale, l'USM, l'Union syndicale des magistrats, qui dit ce matin approuver la direction des mesures prises par Éric Dupond-Moretti. Un grand merci Jérôme Durin, sénateur merci. Socialiste et donc président de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France. J'ai parlé de repentito, j'ai voulu faire mon malin avec l'italien, je ne parle pas italien, le repenti en français, le pentito tout simplement, pentito pour le repenti italien. Et comme pour illustrer cette actualité, on a appris ce matin à Marseille la mort d'un homme de 19 ans tué par balle sur un point de deal dans le quartier de la Belle de Mai, dans ce qui est très vraisemblablement le troisième narcomicide de l'année. L'an dernier, 49 personnes ont été tuées à Marseille dans la guerre que se livrent les bandes rivales. Un adolescent de 15 ans est mort poignardé hier en fin d'après-midi à Châteauroux dans l'Indre. La victime a reçu plusieurs coups de couteau pendant une bagarre. Jérôme Collin de France Bleu Berry.
L'adolescent a reçu plusieurs coups de couteau au thorax. Les pompiers de l'Indre l'ont d'abord pris en charge dans un état critique et l'ont transporté à l'hôpital de Châteauroux pour se faire opérer. Mais le jeune homme de 15 ans n'a finalement pas survécu à ses très graves blessures. L'agresseur présumé, lui, a été interpellé par les services de police. Selon nos informations, il s'agirait d'un mineur de 17 ans. Il doit être entendu pour éclaircir les circonstances. Est-ce qu'il connaissait la victime hier après-midi ? Impossible de le dire pour l'instant. Le parquet de Châteauroux se contente de confirmer l'ouverture d'une enquête.
Deux voitures de police municipale ont été incendiées dans la cour de la mairie de Givors. C'est dans le Rhône. Cet incendie est considéré comme une réponse de bande après l'interpellation de 5 mineurs liés à une agression.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Aux États-Unis, c'était l'un des événements politico-journalistiques mondains de l'année, le dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche. Et bien devant une assemblée en smoking et robe longue, le président américain est souvent raillé d'ailleurs par un humoriste, c'est devenu une tradition. Et hier soir, lors de ce gala, Joe Biden, 81 ans, a fait preuve d'autodérision sur son âge, tout en égratignant son concurrent Donald Trump.
La campagne 2024 bat son plein. Je parcours tout le pays, Pennsylvanie, Géorgie, Caroline du Nord. Et oui, l'âge est un problème. Je suis un adulte qui est en compétition avec un enfant de 6 ans.
Voilà, Joe Biden hier soir au gala annuel des correspondants de la Maison Blanche à l'hôtel Hilton de Washington. Une centaine de manifestants pro-palestiniens s'étaient d'ailleurs rassemblés devant cet hôtel en entonnant des slogans tels que « Honte à vous » pour dénoncer la guerre dans la bande de Gaza. Notez à ce propos que les négociations avancent lentement sur cette question d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Une délégation du Hamas se rendra demain au Caire pour poursuivre les discussions. Encore un journaliste russe emprisonné pour extrémisme, Sergueï Karlin. Il est accusé d'avoir participé à la création de vidéos pour l'équipe de l'ex-opposant mort aujourd'hui, Alexei Navalny. Il est le deuxième journaliste à être ainsi arrêté pour ces mêmes motifs. Enfin, le pape François, qui était à Venise ce matin pour dénoncer le surtourisme. C'était son premier déplacement hors de Rome depuis 7 mois. À 87 ans, l'état de santé de François reste bien précaire. C'est un temps maussade aujourd'hui en France. On va faire un point météo à la fin de ce journal. Presque un temps de Toussaint pour ceux qui sont encore en vacances de Pâques. Eh bien, nous partons à l'Île-Dieu, c'est en Vendée, où les vacanciers, et pas seulement eux, attendent un peu plus de soleil. Ça devrait arriver en milieu de semaine, promet Météo France. Et en attendant, il faut composer avec ce ciel bien chargé. Sur le marché de Port-Joinville, à l'Île-Dieu donc, les maraîchers attendent des jours meilleurs. Reportage signé Yves René Tapon.
Dans son cache-cache avec les nuages, le soleil reste pour l'heure bien timide. Bernard, loueur de vélo sur le port, n'est pas franchement débordé.
Les gens sont différents. On va dire qu'ils sont un peu timides.
Ils sont frileux avec la météo.
Bah voilà quoi, voilà. C'est pas ça, ça pourrait être mieux. On risque pas de faire le vide en ce moment. Hein. Mais dès qu'il commence à faire beau, là, ça y est, les gens bougent.
Hein. Un peu plus loin, Virginie qui vend des fruits et légumes, a le moral dans les chaussettes.
C'est très compliqué. Malheureusement, la météo nous apporte beaucoup de soucis pour le stock. Il y a beaucoup moins de ventes en ce qui concerne les fruits de saison, comme la fraise. Donc on reste sur des produits comme la clémentine, les agrumes, les pommes, qui sont plus adaptés à nos températures actuelles. Le moral n'est pas forcément au beau fixe, j'avoue.
À quelques mètres, Vincent, lui, ne se plaint pas et pour cause.
Je vends des pâtes, donc c'est la température idéale.
Vincent garde donc le moral.
Les vacances sont décalées entre les Parisiens et les Nantais, donc c'est 4 semaines. Donc moi, je me plains pas tant que ça, ça reste correct. Il y a du monde qui vient, il y a les bateaux qui sont pleins, donc c'est sympa. Ça bouge tranquillement entre deux averses, ça le fait, ouais.
Mais avec quelques degrés de plus, ça le ferait encore mieux.
Reportage France Bleu, Loire-Océan, Yves René Tapon. A noter aussi que nos véhicules en France vont encore subir le phénomène des sables du Sahara. À partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi, le ciel français sera encore chargé de ce sable rouge. Le football, il y aura un club français en finale féminine de la Ligue des Champions, pourquoi pas dire la Ligue des Championnes. Ce sera soit le PSG, soit Lyon. Les deux clubs vont se rencontrer cet après-midi, demi-finale. Finale retour. Il y a 8 jours au match aller, les Lyonnaises l'avaient emporté 3-2. L'OL semble donc favori, mais rien n'est fait, tempère l'entraîneuse lyonnaise Sonia Bonpastor.
Ce match retour au Parc des Princes, il sera un match difficile, on le sait. On a assez d'expérience aussi pour bien appréhender ce rendez-vous. L'Olympique Lyonnais, ça fait des années qu'on est tout là-haut, qu'on gagne énormément de titres et de matchs. Et ce qui fait partie de la réussite, c'est notre mise en question chaque année, chaque saison.
La Lyonnaise Sonia Bonpastor avec Christophe Vincent. Et du côté des Parisiennes, le match qu'elles ont perdu à l'aller peut être surmonté. Totale confiance donc chez l'entraîneur parisien Jocelyn Prêcheur.
On est conscient de la difficulté de la tâche, mais je n'ai absolument aucun doute sur notre capacité à renverser cette situation. C'est même une force, je trouve, qu'on a développée cette saison. Et en tout cas, c'est cette force-là qui me permet de vous répondre avec confiance et en tout cas même certitude sur notre capacité à renverser ce match.
La confiance de l'entraîneur parisien Jocelyn Prêcheur avec Bruno Salomon de France Bleu Paris, PSG-OL, demi-finale retour de la Ligue des Championnes. Début du match cet après-midi, il sera 16h au Parc des Princes. À suivre, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Hier, nous avons dormi dans l'une des maisons les plus célèbres au monde. 5 milliards de téléspectateurs la connaissent. La petite maison dans la prairie, reconstituée, reconstruite par une Bretonne chez elle. Claire Villani a donc construit une réplique de cette ferme des Ingalls, réplique bluffante jusque dans les moindres détails. Une petite maison dans la prairie que l'on peut visiter et même louer à Campénéac, c'est dans le Morbihan. La cabane est là, au fond du jardin.
Madame Ingalls.
Alors, donc là, vous êtes dans la partie salle à manger, avec le rocking chair, où était Caroline, la cheminée avec le fusil, la pipe, le violon aussi hein, de Charles, la petite chaise aussi de Carrie. On va continuer donc dans la cuisine.
Avec la petite bouilloire.
Voilà, la bouilloire, les pots à lait, la pompe à eau, hein. Pour faire le minimum de toilettes.
Ensuite.
Donc la chambre de Charles et Caroline avec le lit également de Carrie.
Et là, ah oui, d'échelle.
Ouais. Quand on monte à cette échelle, on se retrouve dans la chambre de Laura et Marie.
Combien de mètres carrés au total ?
40 à peu près.
40 mètres carrés qu'elle a dû improviser. Les décors de la série ont été détruits.
Sur Internet, on trouve juste des plans comme ça, mais il n'y a pas de dimension. Je me suis basée un petit peu à la hauteur de Michael Landon pour la hauteur de la maison et sur quelques pas qu'il faisait dans la maison pour pouvoir aussi avoir une certaine dimension.
Non, vous avez calculé les pas ?
C'est ça, les pas, ouais. De la porte d'entrée jusqu'au bout de la cuisine. Et après, je me suis, immergée dans cette maison et je l'ai construite comme moi j'estime qu'elle est.
Moi, ce qui me frappe le plus, c'est tous les petits détails.
Ah oui, parce que moi, je suis quelqu'un de perfectionniste.
Vous avez fait comment ?
J'ai été sur Internet et puis dans les brocantes.
Mais jusqu'à, oui, on voit même le chapeau de Charles.
C'est l'objet que j'ai eu le plus de mal à trouver, c'est le chapeau.
Alors, la famille Ingalls, la maison vous plaît ?
Oui.
Ah, oui.
Alors, il n'y a plus qu'à la construire.
Vous êtes un petit peu amoureuse aussi de Charles.
Ah bah Michael Landon, c'est Michael Landon, hein, ça c'est sûr. Hein. Si on est autant de fans, c'est grâce à lui.
Sauf que Claire est bien plus que fan, elle est même incapable de compter les épisodes qu'elle a visionnés.
Oh là là, mon Dieu, 205 épisodes, deux fois par an pendant 40 ans.
Vous connaissez par cœur les dialogues là.
Oui, quasi. Je regarde toutes les rediffs moi. Mais c'est pas grave, ça. On a beau les connaître par cœur, mais chaque moment de notre vie, à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, on n'est pas les mêmes. Et à chaque fois, on les regarde avec un œil différent, en fait.
Quand vous êtes toute seule dans cette maison, ça vous procure quoi?
Beaucoup d'émotions, en fait. Parce que c'est une maison qui a une âme.
Et ça, vous avez l'impression que ceux qui viennent visiter le partagent?
Ah oui, oui, complètement. Il y a des personnes qui rentrent et qui pleurent, quoi. Et quand on ressort, on a l'impression de prendre une bombe de société dans la, en pleine figure. On se dit, mais ouais, mais c'est pas possible, quoi. Cette maison-là, c'est un havre de paix.
Voilà, justement, des visiteurs.
Waouh! C'est vraiment identique.
Vous venez d'où?
Dunkerque.
Qu'est-ce que vous ressentez,
là?
Voilà, il faut que j'aille scier du bois, donc. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles. Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Cet après-midi, la pluie va continuer d'arroser l'est du pays.
Oui, avec des averses soutenues, continues, qu'on retrouve du Languedoc-Roussillon à la région Rhône-Alpes, Franche-Comté jusqu'en Alsace. Elles sont plus intenses sur les Cévennes, où on attend jusqu'à 150 mm d'ici ce soir, ce qui correspond à 3 semaines de précipitations. On a par rapport à ce matin un temps plus sec sur le Var et les Alpes-Maritimes, ça s'arrange un petit peu avec un soleil voilé. Pour la Corse, là, c'est toujours grand soleil. Pour le reste du pays, c'est le retour d'averses orageuses du nord de l'Aquitaine jusqu'à en Bretagne, région centre. Et puis en fin de journée, ces pluies vont gagner l'Île-de-France et la pointe nord. On aura toujours du vent sur le quart sud-est et sur les Hauts-de-France.
Et les températures toujours assez proches des normales de saison.
Oui, c'est vrai, avec une moyenne de 12 à 19 degrés du nord au sud, jusqu'à 20 à Bastia, 26 même à Ajaccio sous le soleil. Et ce type de temps changeant, alternant les périodes pluvieuses et plus ou moins ensoleillées, ben on va l'avoir toute la semaine prochaine, avec également la même tendance pour les températures.
Céline Dacosta.
France Inter. 17h, Vincent Josse.
Ce dimanche, Léa Drucker est dans le Grand Atelier. La comédienne est à l'affiche de 2 nouveaux films et elle invite le cinéaste belge Lucas Dont.
Le Grand Atelier.
Tous les dimanches, sur Inter, à 17h.
Filmo, la première plateforme de streaming 100% cinéma. Classique, découverte, cinéaste d'aujourd'hui et de demain. Chaque mois, retrouvez des milliers de films des plus grands réalisateurs et réalisatrices. Avec Filmo, accédez au meilleur des cinémas. Des émissions exclusives, des films inédits que vous ne verrez nulle part ailleurs. Osez les classiques, osez les découvertes, osez Filmo. Pour seulement 6,99€ par mois. Et en ce moment, profitez de l'essai offert et sans engagement sur filmotv.fr.
France Inter, partenaire de La Fleur de Buriti, un film de René Nader Messora et Joao Salavizza. Guidés par leurs rites ancestraux et leur amour de la nature, le peuple indigène Crao ne cesse d'inventer de nouvelles formes de résistance. À travers les yeux de sa fille, Pat Pro va parcourir 3 époques clés de l'histoire de son peuple. Un récit vibrant et engagé au cœur de la forêt brésilienne. La Fleur de Buriti, le 1er mai au cinéma, un film France Inter.
13h22, merci d'avoir choisi France Inter. Voici l'Esprit Sport. C'est avec vous, Nathalie Yanetta.
Merci Eric Delvaux. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ça sera à 14h. Quel esprit flotte donc sur Bondy? Pour être mère et terre de champion, forcément quelque chose de particulier que notre invité porte en lui. À 89 jours des Jeux, l'un des plus grands espoirs de médailles françaises, et non, je ne parle pas de Kylian Mbappé. Le judoka Aurélien Dies, solaire et soliste en moins de 100 kilos, va nous raconter sa ville, son sport et son rêve. Bien sûr, on parlera avec lui de Valentin Winato. Même sport, même rêve, mais pas même vie. Épisode 30 de la prépa olympique de Valentin. On parlera aussi paternité et bien sûr, rien à voir, Claude Askolovic. Son esprit, sa flamme même seront là. Nous sommes le dimanche 28 avril et cette flamme justement olympique se rapproche de Marseille. Alors on inspire.
L'Esprit Sport. Nathalie Yanetta sur France Inter.
24 septembre 2023, grand slam de Bakou, médaille de bronze face au double champion du monde, Jorge Fonseca.
Allez, c'est parti pour le golden score. Aurélien Dies qui est mené d'une pénalité, mais il a les solutions. Elle est notamment dans la mobilité, dans le fait de bouger au niveau des jambes, de déstabiliser Fonseca qui reste dangereux. Attention. Voilà, tout de suite, vous avez vu la différence dès qu'il envoie, dès qu'il attaque. Et
allez, oui,
Bobby !
C'est énorme ce qu'il est en train de faire. Dès qu'il a mis de la mobilité, de la lucidité et ce passage au sol pour aller chercher l'immobilisation. Et Aurélien Dies qui, voilà, regardez, vient de remporter le bronze face à un adversaire comme Fonseca qui, bien évidemment, est un adversaire connu et reconnu. Grosse performance d'Aurélien Dies ici.
Bonjour Aurélien Dies.
Bonjour.
Depuis ça, vous avez validé votre ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, on va parler de vous, on va parler de votre parcours, de votre sport, le judo. Mais un petit mot de votre santé. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas aux Europes, en Croatie. Est-ce que ça va ?
Ouais, ça va.
C'est quoi cette blessure ?
Non, il y a des petits pépins physiques minimes. Et voilà, on est dans une année olympique. Donc l'important, c'est d'être prêt et performant cet été aux Jeux Olympiques avant tout.
Donc on fait des choix.
Fait des choix, voilà. Ouais. Donc, choisir, c'est renoncer, André Gide.
Ouais. Donc, pour vous, choisir, c'est plutôt préférer. Vous allez nous raconter votre vie. Vous pourriez être une des plus belles surprises de cet été, Aurélien. Et ces Jeux, en fait, vous les avez rêvés, c'était à Pékin, je crois, vous aviez 11 ans en les regardant à la télé.
C'est exactement ça, je passais l'été devant ma télé, en plus avec le décalage horaire, du coup les nuits et les journées, pour essayer de tout regarder en direct. Et donc ouais, c'est là où vraiment je pense que j'étais habité par cet esprit olympique, parce que je trouvais ça beau, au-delà du sport que je regardais déjà un peu tous les jours avec mon frère, parce qu'on a une passion du sport qu'on partage, et je regardais, et voilà, le fait de voir beaucoup de pays, de voir le sport à l'honneur, de voir des gens se dépasser ensemble, et vraiment avec beaucoup de fraternité en fait, je trouve que c'est vraiment des valeurs qui subliment encore plus le sport, de ces Jeux Olympiques par rapport à ce qu'on peut voir tout au long de l'année. Et donc ouais, c'est ça qui m'a fait devenir amoureux un peu des Jeux Olympiques, du sport olympique, et finalement du coup me diriger vers un sport olympique pour essayer d'y briller et de pouvoir aussi permettre de créer des petites étoiles dans les yeux de ceux qui nous regardent.
Est-ce que je peux quand même dire, Aurélien, que vous êtes le visage de ce que le sport français fait de mieux, c'est-à-dire une émancipation grâce au sport, par le sport, dans un club à côté de la maison avec un éducateur qui détecte des qualités hors normes?
J'aurais pas la prétention de dire ça, pourtant je m'aime beaucoup. Mais j'aurais pas la prétention de dire ça. Mais j'essaye, si certains peuvent. Enfin, si
en
je peux
tout cas, vous êtes l'incarnation d'un modèle français.
C'est ça. Si je peux être un modèle, j'essaye de l'être au maximum, notamment dans mon département qui est la Seine-Saint-Denis, où j'essaye d'intervenir, propager le maximum de discours positifs pour faire en sorte que tous on s'élève. Et ouais, du coup, ouais, j'ai commencé le judo dans un petit club devenu grand, de Bondy, qui était pas loin de chez moi. Et aujourd'hui, j'arrive encore à représenter ma ville, mon département, et du coup au niveau mondial.
Ça aussi, on va parler de cet héritage dans la Seine-Saint-Denis grâce aux Jeux Olympiques, mais vous m'intéressez aussi en tant que personne quand je dis ce que le sport français et le système français fait de mieux, parce que vous êtes aussi ce fameux double projet de l'école et du sport de haut niveau. Vous avez fait des études, vous êtes ingénieur, hein, vous avez choisi l'université, c'est Paris-Saclay pour vous qui vous a formé. Est-ce que c'était un sacrifice total ?
Écoutez, il fallait beaucoup d'ambition. Pour vous donner un exemple, voilà, de ce double projet qui est quand même assez torturé dans l'esprit des Français, mais qui voit le jour petit à petit. Une anecdote que j'aime bien raconter, c'est quand j'étais au lycée, parce que j'étais encore au lycée à Bondy, je suis rentré tard en sport-études, mais j'avais quand même cette ambition de faire les deux et de briller au niveau sportif. Un professeur qui était monté sur la table et qui nous avait écrit dessus que, écoutez, si vous êtes encore là dans ce lycée-là de Bondy à cet âge-là, c'est que vous n'avez pas de talent dans le sport, donc concentrez-vous sur le côté plutôt académique et professionnel, parce qu'on peut pas faire les deux et qu'à essayer de courir les deux lièvres, vous en attraperez aucun. Et moi, têtu comme une mule, j'ai refusé qu'en fait ils viennent limiter mon ambition, qu'ils viennent me dire ce que je suis capable de faire et pas capable de faire, alors qu'ils me connaissaient depuis un mois et demi. Et ouais, donc du coup, c'est même lui qui finalement a provoqué aussi mon entrée en sport-études.
Vous l'avez revu, ce prof ?
Non, je l'ai pas revu.
Mais vous avez un message.
Franchement, je l'en veux même pas. Il avait une vision assez réductrice, qui est encore une vision qui persiste encore. Et quand j'interviens aussi, c'est ce que j'essaye de prôner, ce double parcours. On n'a pas à choisir les deux. Il faut justement avoir un un bagage académique, un bagage professionnel, une sécurité, et avoir même pas seulement une sécurité en fait, vraiment une ambition professionnelle et avoir une ambition sportive, parce que l'un va servir à l'autre et il y a un certain équilibre à trouver. Et donc ouais, je l'en veux pas, parce que c'est la vision qu'il y avait avant et maintenant ça a un peu évolué. Et
elle a vraiment évolué cette vision, Aurélien, vous êtes sûr?
On essaie de mettre les choses en place. Si à l'heure actuelle j'ai quand même réussi à le faire, c'est que voilà, au niveau de l'université Paris-Saclay, on a fait quelques adaptations au niveau de l'emploi du temps. J'ai tout validé comme tout le monde, mais juste on a étalé un peu plus pour qu'il puisse avoir ce diplôme. Et après voilà, je suis tombé sur une entreprise qui était Renault, qui voilà a aussi compris toutes les soft skills,
projet,
voilà,
ouais.
toutes les valeurs que le sport m'avait apportées, ouais. Et qui m'ont permis de travailler sur les voitures autonomes au Technocentre. Un des projets les plus innovants du ouais. coup finalement de la marque, et franchement c'était un pur plaisir.
Je parlais de l'excellence à la française, c'est aussi dans un des pôles d'excellence à la française que vous faites votre préparation olympique. Aurélien, vous faites partie de ceux qui ont la chance d'être à l'INSEP. L'INSEP, on commence à le connaître bien sur France Inter parce qu'on en parle très souvent. Vous avez conscience de la chance d'avoir un environnement comme celui-là à votre disposition?
Vous savez quoi, je vais vous donner toujours une anecdote, hein. J'ai bien raconté des histoires.
Mais c'est ça la vie, c'est des histoires.
C'est ça. Et j'en aurai plein à raconter plus tard grâce à mon parcours. Bah, quand j'étais plus jeune, je me rappelle après mon premier stage à l'INSEP que j'avais fait, on nous avait demandé sur un cours un peu de préparation mentale, mais de psychologie, de fixer les objectifs à court, moyen et long terme. Et dans un de mes objectifs, j'avais mis être INSEPien. Tellement, en fait, finalement, lors du stage, j'avais
vu... C'était comme un qualificatif, en fait.
Exactement. Et en fait, et les infrastructures qui sont quand même mises en place à l'INSEP, qui sont quand même franchement très, très belles, et qui sont...
Le monde entier vient s'inspirer de l'INSEP.
Exactement. Et donc, en fait, à part aux États-Unis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures de ce niveau-là. Donc, ouais, c'est vraiment une chance de pouvoir s'entraîner là-bas, de pouvoir récupérer là-bas, pouvoir faire ses soins là-bas. On dit souvent que le bâtiment kiné de l'INSEP pourrait avoir mon nom tellement j'y ai passé du temps. Mais voilà, c'est aussi une chance de pouvoir traverser le kiné, aller à l'entraînement en quelques minutes, vraiment, en courant. Et donc ouais, c'est une chance que j'ai eue. Et du coup, j'ai eu dans mon parcours du coup la chance de pouvoir ou l'occasion de pouvoir du coup arriver d'un pôle d'excellence française qui était l'INSEP à un autre pôle d'excellence française qui est le plateau de Saclay pour faire mes études ou pour travailler. Et voilà, je jonglais un peu. J'ai essayé de m'accrocher à toutes les pôles d'excellence parce que je vise l'excellence. Ambition bien bondinoise.
Ça s'entend bien. Je vous présente Claude Askolovitch, mon cher Aurélien. Salut Claude.
Je vous écoute, on dirait un antidote dans nos journaux à Inter et ailleurs. On passe notre temps à raconter un pays qui crame dans sa tête, qui ne sait plus où il en est, qui trouve qu'il ne marche plus. On parle d'un département à la Seine-Saint-Denis dont on ne dit que du mal, pas moi, mais en général. Vous avez un discours, je me dis, le gars, il est de ma génération, il vient des années 60, 70, quand la France y croyait. Mais vous ressentez ce décalage, blague à part?
Non, mais
votre positivité, mais globale, et votre enthousiasme semblent totalement décalés par rapport à l'époque, ou bien peut-être que les médias parlent mal de notre époque.
Et je vais un peu tirer sur les Français, pardon. On a ce don de regarder souvent le mauvais côté des choses, de les présenter de la mauvaise manière, et c'est quelque chose qui finalement est assez communicatif. Par exemple, moi, je comprends toujours pas le fait qu'on soit pas heureux d'accueillir les Jeux Olympiques.
Alors, on va en parler de ça, Aurélien, oulala,
pardon,
mais vous
spoil.
Allez trop vite, trop loin,
mais
trop
j'ai pas
fort,
le programme,
comme,
désolé.
Comme dans le sport, bien sûr qu'on va parler de ce territoire et de tout ce que nous espérons voir changer, ou pas, grâce aux Jeux. On va marquer juste une petite pause, c'est Junior et le silence, quelque chose que vous avez l'air de pas très bien maîtriser, vous, comme moi.
À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi? Dans ce silence, est-ce que tu penses parfois? Quand le vide est si dense, qu'il ne désemplit pas. À force de prudence, ça risque de jeter un froid. Est-ce que tu penses? La distance, on s'habituera. Et l'absence, tu crois. Et le chacun pour soi. Avant la prochaine séquence, le prochain faux pas.
Toujours avec le judoka Aurélien Dies. Aurélien, forcément, vous connaissez Clarisse Agbenienou. Vous connaissez aussi peut-être Cécilia Barder, Charline Picon. Ce sont des athlètes olympiques, mais ce sont aussi des mamans avec un parcours incroyable. On salue souvent leur performance avec cette vie de famille extrêmement dense. On a beaucoup parlé d'elles, mais assez peu des hommes. Et pourtant, il y a des athlètes qui sont aussi papas. Alors, ils sont moins nombreux, mais leur quotidien est dense aussi. Emma Sarango, elle s'est invitée dans la routine d'un escrimeur. Il s'appelle Julien Mertin. Il a 35 ans. Il est champion olympique de fleuret par équipe. Champion du monde aussi. Il sera à Paris aux Jeux. Mais il est surtout aujourd'hui le père de Chloé, 8 ans, et Baptiste, 5 ans.
Il est peut-être un peu plus grand, un peu plus costaud, mais à part ça, ce matin, devant l'école, Julien Mertin ressemble à tous les autres papas. Même si Chloé, 8 ans, et Baptiste, 5 ans, savent que leur papa fait un métier un peu particulier.
Escrime, le fleuret, l'INSEP.
Est-ce qu'il prépare quelque chose de particulier, là, papa ?
Oui, les Jeux Olympiques.
Ce moment qui peut paraître anodin, Julien ne le vit pas autant qu'il le voudrait.
Sur les 4 matinées, lundi, mardi, jeudi, vendredi, ma femme le fait 3 fois et moi une fois, en moyenne. C'est déjà une belle victoire avec la vie que j'ai à côté.
La vie à côté, cet entraînement quotidien dès 9h à l'INSEP où il passe toute sa journée et une dizaine de fois dans l'année, des déplacements plus ou moins longs. Demain, par exemple, Julien part un mois en tournée en Asie.
Ça a été très très dur quand il était très jeune. Plus ça a été, plus c'était une routine, donc c'était ancré, donc c'était plus facile. Mais je sens bien que des fois, il y a des petites larmes, il y a des petites émotions qui ressortent. L'inquiétude, le fait de me voir partir.
Quant aux vacances, Julien en a très peu, jamais à Noël, rarement l'été. Alors à la maison, c'est son épouse qui assure. Elle a choisi un travail proche de la maison, avec des horaires fixes à 80%. Julien est reconnaissant de tous ses sacrifices et tente parfois de la relayer.
Les fins de séance, je vais partir un petit peu plus tôt pour aller voir, des stages un petit peu écourtés, parce que l'entraîneur, il sait que j'ai besoin de voir un peu ma famille avant de repartir sur un autre événement.
Car ses enfants, sa famille sont un pilier. Sans eux, Julien est convaincu qu'il n'aurait jamais décroché ses titres.
Ça me transcende aussi sur la piste, parce que voir leurs yeux pétillants, pour moi, c'est un énorme plus qui tend vers la performance. Ça va être une brique en plus qui va me permettre de me transcender encore plus.
Alors, quand le Comité national olympique, à la demande de Clarisse Agbenienou, a promis un espace pour les parents et leurs enfants tout près du village des athlètes cet été.
Je remercie Clarisse, ça a été la meneuse de guerre. Ne pas pouvoir les voir si, alors qu'ils sont à côté de chez du village finalement, ça m'aura impacté, c'est sûr.
S'il choisit de parler de sa paternité, c'est parce que Julien espère convaincre d'autres athlètes hommes.
Il y en a plein qui renoncent par peur, entre guillemets, de manque de sommeil, de manque d'énergie pour poursuivre le planning familial. J'espère montrer aussi que c'est pas un frein à la performance et aux médailles.
Car ses enfants ont déjà décidé pour lui la couleur de sa médaille à Paris.
En or.
L'esprit sport. Nathalie Yanetta sur France Inter.
Et Aurélien Dies, notre invité du jour, qualifié pour ses Jeux à Paris en catégorie moins de 100 kilos. On a dit bondy, on l'a dit plein de fois depuis le début de cette émission. Quand on dit bondy, évidemment, on pense Kiki, Kylian Mbappé. Cette ville, c'est la vôtre. Et c'est une ville dans un département auquel on a beaucoup promis avec ces Jeux. Vous l'avez extrêmement bien exprimé depuis le début de l'émission sur cet engagement que vous avez sur ce territoire. D'ailleurs, je crois que vous êtes à l'INSEP, mais vous continuez d'être au Blanc-Ménil, c'est ça, dans votre club. L'héritage, ce sera quoi ? Il sera matériel, mais est-ce qu'il ne doit pas être plus que ça pour la Seine-Saint-Denis ?
Je pense que ouais, il y a un héritage au-delà de ça. Il y a déjà la chance qu'on a de pouvoir accueillir ce village olympique et que bon nombre d'infrastructures seront dans ce département de Seine-Saint-Denis. On pourra donner une autre image de la Seine-Saint-Denis.
Pourquoi ? Alors voilà, c'est sur l'image, moi, que ça m'intéresse. Ah bah, la réputation.
Au niveau de l'image, justement, c'est ce que moi j'aime à mettre en avant. Et c'est pour ça que j'ai choisi de rester dans le 93, pour pouvoir être un ambassadeur, pour pouvoir montrer un autre visuel de ce département, une autre richesse de ce département, et combien finalement c'est une force, et combien c'est un territoire qui est riche, et non pas que par le football et par Kylian, même si voilà, Bondy est riche de foot, on le sait, et la Seine-Saint-Denis de manière plus globale. D'ailleurs, je salue la montée en Ligue 2 du Red Star.
Bravo, absolument. Grand sociétaire de Bauer, on peut le dire, mon cher Claude.
Absolument.
Mais oui.
Mais ouais, le but, c'est de faire évoluer les mentalités à la fois des séquano-dionysiens, de ceux qui sont sur place, et à la fois faire évoluer les mentalités de la France tout entière et du monde sur ne serait-ce que ce département, ouais. Ce serait déjà une
oui, parce que c'est dans les deux sens, c'est-à-dire une manière de regarder ce territoire comme étant un territoire plein de promesses, mais aussi à l'inverse, que les citoyens se sentent un peu plus fiers de ce qu'ils sont.
Exactement, et c'est pour ça que du coup, si je passe mon temps à crier sur tous les toits que je suis bondinois et que je suis de Seine-Saint-Denis, c'est justement parce que voilà, je veux montrer ma fierté d'être de ce département-là, et je veux aussi montrer aux habitants que c'est pas une tare de venir de ce département. Voilà, moi j'ai grandi à la base au Chêne Pointu, à Clichy-sous-Bois.
C'est une bonne
bien dur comme quartier, mais je trouve qu'il y a une richesse vraiment dans ces quartiers-là, au niveau de la diversité, au niveau de l'adaptabilité, parce que j'ai grandi avec tellement de profils différents et qu'on était toujours dans ce partage et ce mélange. Bah, j'ai eu un peu de chaque culture et j'ai cette faculté à être un peu comme un caméléon et à m'adapter à différents environnements. Et c'est une chance que n'ont pas forcément toutes les personnes qui viennent d'autres milieux, et nous on a eu la chance de pouvoir l'avoir depuis petit en fait.
Mais il n'y a rien qui vous décourage, Aurélien. On voit par exemple la polémique autour d'Aya Nakamura, qui d'ailleurs a raflé 3 flammes cette semaine, au passage. Elle est aussi l'incarnation de tous les mots français. C'est-à-dire, parce qu'elle vient de Seine-Saint-Denis, c'est le mépris de classe. Parce qu'elle est noire, c'est le racisme. Parce qu'elle est femme, c'est le sexisme. Et pour autant, elle a cette puissance. Quand vous avez entendu toute cette polémique, évidemment, vous avez défendu Aya Nakamura, mais ça vous décourage pas de vous dire que systématiquement, quand des figures comme vous, comme elle, émergent, on vous renvoie de nouveau à vos origines, à votre couleur et à ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire vous êtes des Français fiers d'être Français.
Ouais, on reste Français, mais je vais juste faire une petite phrase, c'est que si on parle de toi et si tu es critiqué, c'est finalement que t'as atteint un niveau d'importance qui fait que on prend la peine de te critiquer et de parler de toi. Les chiffres ne mentent pas. À partir du moment où on me dit que c'est l'artiste française la plus écoutée dans le monde, bah forcément, c'est quelque chose qui, pour moi, dans le sens, a pas
incarne
de sens.
Incarne la France et a sa place à une cérémonie
en fait,
d'ouverture.
Pour moi, c'est comme si on contredisait les chiffres. Et comme je vous ai dit, qu'est-ce que maths, il ne faut pas contredire les chiffres.
Claude, pour finir sur cette partie.
Juste, vous aviez aimé la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby? Avec le côté vieille France, le triporteur, le vélo, le mec en bras de chemise.
J'avais eu la chance de pouvoir y assister au Stade de France et franchement j'avais bien aimé le fait de, comme je disais, c'est important de rappeler et de connaître son histoire, pas rester enfermé mais de connaître son histoire, et je trouvais ça bien de reprendre les symboles et des vraies valeurs de la France. Et juste un petit.
Donc on peut aimer les deux.
On peut totalement.
On doit aimer les deux.
On doit aimer les deux et c'est là et je crois que c'est l'intérêt de mettre la vieille France d'Edith Piaf avec Aya Nakamura. Et juste un petit passage sur la cérémonie d'ouverture, parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles par mon petit frère parce que mon petit frère est maîtrisien, maîtrise Radio France,
oui.
et du coup...
Et
en
il
fait,
sera à l'orchestre ?
Bah écoutez, on sera deux dièses.
Incroyable ! Mais c'est fabuleux !
Et la dernière fois que tu viens à France Inter, il m'a dit, mais comment ça se fait que t'as pas parlé de...
On
sera deux dièses à la cérémonie d'ouverture, et vu qu'on a cette passion tous les deux du sport olympique, parce que voilà, lui a fait du hand, bah je suis content de pouvoir vivre cette cérémonie des Jeux avec mon petit frère.
Pardon, mais la maîtrise de Radio France, c'est extrêmement balèze.
Non mais
il est balèze.
Non mais il est extrêmement balèze.
Non mais c'est très très dur. Non mais c'est un engagement comparable à celui d'un sportif de haut niveau.
Je sais parce que c'est en CE1 qu'il est rentré. Donc il fait la maîtrise piquée tout petit. Il a une oreille absolue. Des fois je m'amuse à lui mettre des sons et joue au piano. Il est très 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 balèze. Il a fait des concerts de piano avec la maîtrise. Les premières fois où je suis venu à la maison ici de la radio, c'était pour venir le voir performer. Donc voilà, je suis content qu'il soit avec moi.
On
cette
l'invitera, cérémonie votre frère. C'est quoi son prénom?
Anselme.
Anselme. Vous êtes le bienvenu, vous aussi, dans l'esprit sport, parce qu'il a raison, votre frère, vous avez un esprit sport. Hein, pour
Et qui d'ailleurs est en passesse aussi, donc première année de médecine, donc lui aussi, musique, sport, études.
Quelle famille Quelle famille
Non, quel département
Claude, il a, lui, la flamme, et ça tombe bien parce que c'est de ça dont vous voulez nous parler, de la flamme.
Absolument, la flamme paralympique, peut-être la plus précieuse, et que va porter à la fin du mois d'août dans les rues de Chartres une enfant prénommée Maëlle qui a 13 ans, elle-même portée comme une jeune reine dans un véhicule qui ressemble à un char romain. Imaginez le triomphe pour Maëlle qu'une maladie génétique empêche de marcher, sauf quand elle est dans son élément, l'eau de la piscine. Car Maëlle est nageuse, elle aligne les longueurs à l'Odyssée de Chartres. Je connais, c'est superbe. On parle donc ici d'une jeune espérance du handisport. Maëlle, à la piscine, lorsqu'elle a pied, portée par l'eau, arrive à marcher. Et lisant son histoire dans l'Écho républicain, j'ai pensé aux mots qu'une grande dame de mon âge, un demi-siècle la sépare de Maëlle, a offert au magazine du Parisien dans un magnifique portrait. « Dans une piscine, mon corps est libre », a dit Béatrice S., sublime alsacienne en fauteuil, ses jambes ne la portent plus, qui en a accompli des merveilles dans l'eau où nos dimensions changent.
Mais Béatrice est une légende du sport, Claude.
Car nul n'est plus titré que cette nageuse qui, avant-hier, est encore allée chercher, pour nous, la flamme en Grèce, Béatrice représente. Elle a glané 26 médailles aux Jeux, dont 20 en or, entre 1984 et 2004. Elle était la reine du crawl, mais débordée en dos, en papillon, et même en brasse, qui pourtant est une hache de jambes. Elle a mis l'aventure, elle a mis l'entêtement, elle s'entraînait avec des valides, elle fait encore de la muscu avec eux, elle voudrait disputer le paracurling, à plus de 60 ans, hein, aux Jeux d'hiver. Elle a connu les tribunes vides et les préjugés. On ne l'a photographiée qu'en survêtement, ou alors si en maillot, le torse seulement, pour qu'on ne voit pas sa différence. À l'adolescence, les os de ses jambes s'étaient mis à pousser de travers. Elle ne grandissait pas, c'est une forme de sclérose en plaques. Âgée de 12 ans, on l'avait envoyée à Berck pour le bonheur iodé chez des bonnes sœurs qui la torturaient. Elle la faisait dormir à plat sur un chariot, on lui avait posé des broches dans la jambe la plus courte et chaque jour, on l'écartelait. Mais dans cet enfer, elle allait à la piscine en rééducation. Et là, dit Béatrice, j'avais la rage. Je me débattais pour garder la tête hors de l'eau et avancer à la force des bras. J'étais libre, je prenais le contrôle de mon corps. Il pouvait enfin s'exprimer. Et ce fut le début d'un destin dont la lecture a renversé mes habitudes mentales.
Et qu'avez-vous compris ?
Que le handisport n'est pas seulement, comme nous disons souvent, un sport comme celui des valides, il est plus encore, il est la vérité même du sport, si le sport consiste à sublimer son corps et à se dépasser, car nul ne pourra se dépasser autant que Béatrice S. ou demain Maëlle, qui sait. Car avant même la perf, avant même la compète, avant l'entraînement, avant l'écœurement, avant la récompense, le sportif handi doit surmonter son premier impossible, sa première blessure, il la porte en lui. Et ce que vivent des champions valides dont nous admirons la bravoure. Par exemple, ce que vit en ce moment la perchiste Margot Chevrier, qui en dépit d'une fracture ouverte à la cheville qu'elle a eue en mars, en dépit de l'avis de son chirurgien qui lui a dit que sa carrière était finie, se mobilise dans une bulle de volonté, se rééduque. Elle a repris la musculation 17 jours après son accident et elle ne veut pas penser qu'elle manquera les Jeux de Paris. Eh bien, ce refus du destin ordinaire et du corps trahi, c'est la scène initiale de chaque sportif handicapé. Il a aussi, le sportif handi, le charme des champions d'antan, car le statut médiatique et commercial mineur des Paralympiques leur amène parfois une atmosphère de débrouille, d'amitié, de folklore et de galère, dont sans doute il faut sortir au nom de l'égalité, mais qui me rappelle qu'autrefois, mon vieux papa appelait ainsi les amateurs les purs.
France Inter, l'esprit sport, Nathalie Yanetta.
Et Aurélien Diès. Aurélien, on va parler de judo. Nos confrères de l'équipe ont calculé, vous l'avez peut-être vu dans le J-100, que le judo aurait 30% de chances d'être la première médaille française le samedi 27. Alors ça ne sera pas vous, parce que vous, je crois que vous entrez en lice le 1er août, c'est ça ? J'ai bien regardé mes fiches. Est-ce que c'est quand même hyper important que les autres cartonnent dès le début ?
Mais en fait, c'est... Comme on dit, judo, c'est un sport individuel, mais qui est beaucoup d'équipes. Et dans tous les cas, c'est une dynamique de groupe, en fait. Et moi, je veux, j'espère, et on s'entraîne tous, on se pousse en entraînement, pour que tous, on ramène la plus belle des médailles, plus belle des médailles, le maximum de médailles. On sait que quand ça crée une dynamique positive, bah, souvent, ça, voilà, ça suit et ça soulage un peu les autres et ça donne un bon élan pour que...
Ça donne le ton pour
qu'on fasse un record de médailles, je l'espère. Mais ouais, on a même déjà vu au championnat d'Europe qui est à Montpellier, que voilà, on a eu une très très belle première journée et que derrière voilà, ça a quand même très très bien fini et on a fini première nation. Et donc ouais, j'espère qu'on finira aussi première nation cet été au jeu.
7 qualifiés chez les garçons, 7 qualifiés chez les filles. Vous êtes la fédération qui a tous ces tickets distribués, ça y est, il n'y a plus d'incertitude pour les unes et les autres. On dit que les filles, c'est 7 engagées et potentiellement 7 médaillables. On ne dit pas exactement la même chose sur le contingent des garçons. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Vous pensez que les filles, elles vont assurer, mais les mecs aussi ?
Moi, je pense que l'équipe de France va assurer en individuel et par équipe. Et ouais, je pense que Le niveau de l'équipe de France masculine et féminine est très fort. On l'a montré là encore au championnat d'Europe qui se passe actuellement. Mmh. On voit qu'il y a des médailles alors que c'est pas forcément les numéros 1 de chaque catégorie qui sont partis et ils arrivent quand même à accrocher, enfin aller jusqu'en finale, aller jusqu'à remporter des médailles. Donc ouais, le niveau de l'équipe de France masculine et féminine est très fort. Et je pense que ouais, il y a un peu aussi cette une période de moins bien des masculins en termes de résultats, on s'est un peu appuyé sur Teddy et sur cette croyance que voilà les on compte plus sur les femmes que sur les hommes. Mmh. Non, on compte sur tout le monde. On aura besoin de tout le monde pour faire briller la France cet été. Autant individuel que par équipe, parce que je vous rappelle qu'on a un titre de champion olympique par équipe mixte.
Évidemment, à défendre. On l'a dit tout à l'heure, vous vous entraînez à l'INSEP. Quand on rentre dans le dojo de l'INSEP, il y a tous les champions olympiques français de l'histoire du judo français. C'est un des sports où la France est la plus performante. Comment est-ce que vous expliquez ça, Aurélien?
On explique ça parce qu'on a quand même une très bonne école du judo en France.
Donc mais il y a un savoir-faire à la française dans ce sport en particulier.
Ouais, il y a un savoir-faire et je pense que c'est aussi l'héritage des champions passés qui ont donné aussi l'envie aux plus jeunes de faire du judo. Et j'espère du coup que à l'héritage des Jeux sera aussi qu'on aura de magnifiques champions français qui vont arriver parce que ça va susciter des vocations. Donc c'est des gens qui auront la chance, non pas comme moi en 2008 de le voir à la télé, mais de le voir en vrai, ouais, et de voir la France briller en vrai et que ça suscitera des vocations. Mais ouais, il y a cet héritage-là, il y a cette petite pression, mais ça nous pousse aussi, ça nous soulève et on sait qu'on est une grosse nation forte du judo et on essaiera de le montrer encore cet été.
Est-ce qu'il y a une école, un style, une stratégie, une idéologie presque du judo français ou est-ce que non, c'est la culture de la gagne, c'est l'habitude de la gagne, c'est la capacité de s'adapter à tous les physiques? Ou est-ce qu'il y a une marque chez les entraîneurs français?
Honnêtement, j'ai pas vraiment fait d'études sociologiques sur ça, mais ouais, je pense que c'est aussi un savoir-faire avec de très très bons entraîneurs que le monde nous envie aussi à plusieurs aspects.
Est-ce que c'est un sport où, comme aurait dit Aimé Jacquet, on impose son jeu? Tout à l'heure, j'entendais là votre victoire. Allez, quand il y va, ça passe. Ou est-ce qu'on s'adapte à la force, au jeu, à la poigne, aux tenues de l'adversaire?
C'est en ça que le judo, c'est vraiment, avec les sports d'opposition, je trouve ça très intéressant, c'est que ça demande beaucoup d'intelligence tactique, parce qu'à la fois, il faut s'adapter au profil de l'adversaire, parce qu'on ne peut pas omettre les qualités de l'adversaire et aller juste sans le considérer dans notre schéma tactique. Et à la fois, il faut arriver sans trop non plus se complaire à son style, à imposer son propre style et à venir avec ses propres armes. Donc, il faut réussir à l'amener dans son style, tout en prenant en considération son style et en s'adaptant à ces choses-là. Mais à la fois, le côté dur un peu des sports de combat et ce qui les rend beau, c'est que voilà, sur plein de combats que j'ai pu gagner comme j'ai pu perdre, sur une demi-seconde, tout peut changer. Alors qu'on était dans la maîtrise, on maîtrisait le combat, en une demi-seconde d'inattention, on peut se faire balayer, on peut prendre un hippon, on peut se faire juste étrangler parce qu'on a levé un peu trop le cou, il peut se passer beaucoup de choses en très peu de temps, ça demande beaucoup de concentration, de lucidité, et ouais, ça peut être très très dur, ça peut être très dur et très ingrat.
On a parlé de l'héritage et des grands champions, évidemment David Douillet et évidemment Teddy Riner. Teddy a mis du temps à se séparer en quelque sorte de la figure titulaire de Douillet. Qu'est-ce que Teddy Riner dit du judo français, Aurélien? Et quand on est à côté de lui, qu'est-ce qu'on prend de ce champion hors norme?
Il dit du judo français que c'est un judo qui est fort, qu'on a une équipe de France féminine comme masculine qui est fort, c'est pour ça que je reprends ces mots. Mmh. Et il dit qu'on devrait exprimer notre potentiel au maximum parce qu'on a de très belles qualités. Moi, je me rappelle de mes souvenirs de 2008, justement, c'était sa première médaille.
Il avait 19 ans.
Ouais, sa première médaille olympique, il venait à peine d'être majeur.
Il avait fait bronze.
Il avait fait du bronze et ça m'avait marqué parce que, ouais, il était très déçu et il s'excusait limite de sa médaille de bronze alors qu'il n'avait que 19 ans. Ouais. Et parce qu'il était jeune et qu'il voulait déjà gagner l'or.
Parce qu'il voulait déjà gagner l'or.
Donc, du coup, voilà, je suis content et c'est une chance de pouvoir encore être à ses côtés parce que c'est une longévité qui est juste
incroyable.
Folle. De 2007 à son premier titre de champion du monde. À 2023 encore, où il gagne encore son titre de champion du monde, et 2024 où il sera là, ça fait...
Et où il dit peut-être 28, il s'interdit rien.
C'est une longévité qui en vrai en soi n'est même pas humaine, je n'arrive même pas à comprendre comment c'est possible, parce que quand je revois où est-ce que moi j'étais en 2007, et je vois qu'à l'heure actuelle, là, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner avec lui, faire des bagarres avec lui, faire des stages avec lui, et j'aurai la chance de pouvoir faire les Jeux Olympiques avec lui, je trouve que c'est très très beau, parce qu'il a aussi motivé finalement, en 2008, mon envie de faire ces Jeux Olympiques, donc ouais, c'est une grâce.
Il y a lui. Et il y a Clarisse Agbeniénou, pour les femmes, ce sont deux champions hors normes qui le sont aussi par l'intensité de leur sport, de leur combat quand ils sont sur le tatami, mais aussi à l'extérieur. Vous êtes l'héritier de ces deux-là, on a l'impression.
Non, je suis l'héritier de personne.
De vos parents, c'est déjà bien.
C'est déjà beaucoup. En tout cas, leur parcours, il est formidable. Le parcours de Clarisse, encore la... au dernier championnat du monde, quand elle revient après moins d'un an après sa grossesse,
qui gagne, juste
bouche bée, je me dis voilà, ces gens sont vraiment des modèles, mais pas seulement des modèles sportifs, c'est des modèles pour quiconque vit et respire. Et ouais, j'espère que voilà, il y aura peut-être un peu de eux dans moi et que il y aura peut-être un peu de leur titre aussi dans mon palmarès.
On a parlé de l'école à la française. Tout le monde n'a pas la chance d'être soutenu par sa fédération. Nous ici, Aurélien, on a un reporter, il travaille pour France Inter, il travaille pour la maison de la radio en général, mais il est aussi judoka et il veut vivre son rêve olympique. Il veut aller lui aussi au Grand Palais éphémère au mois de juillet prochain pour son pays d'origine, du coup, puisqu'il n'est pas en équipe de France. Son pays d'origine, c'est le Bénin. Il s'appelle Valentin Ouinato. On raconte son histoire depuis le début de la saison de l'Esprit Sport. Là, on en est à l'épisode 30, ça commence à... Le compte à rebours s'est enclenché pour que Valentin ait tous ses points. Et ce week-end, il est au championnat d'Afrique du Caire.
On va mettre ici une bande croisée qu'on va doubler également, ça en fait 4 par côté.
On emballe le coude pour pas qu'il saute. Strap fait par Lockman. Bonjour Lockman.
Bonjour à tous, bonjour Valentin.
T'es si professionnel.
Et oui, nous sommes en direct du Hall 1 Cairo Stadium aujourd'hui. La température extérieure est plutôt douce. La journée commence bien. On pose le petit trap pour le coude de Valentin afin qu'il tienne pendant toute la journée et qu'il puisse aller nous chercher la médaille.
Allez, c'est parti. Allez, je suis en chambre d'appel. Premier combat.
Allez, Valentin !
Très bien, très très bien. Mais quoi?
Bah écoutez, la chronique elle va être rapide. J'ai perdu premier tour. En fait, là au moment où je vous parle, là je suis encore un peu sous le choc. Je lance une attaque, une de mes attaques, c'est un spécial, donc je me fais. Enfin, tranquille. Donc je mets l'action, il regarde la vidéo, le replay, et ils mettent Hippon victoire pour l'autre. Apparemment il m'a crocheté la jambe pendant que je faisais l'action. Je sais même pas vous dire si c'est une erreur d'arbitrage ou pas, je suis tellement choqué que voilà, je suis désolé pour la qualité de cette chronique, mais je sais pas quoi vous dire de plus. Premier tour, je marque 0 point et je sais pas, on va regarder le résultat, mais s'il faut, genre, la qualif olympique elle s'envole aujourd'hui. 6 fois à la fin de la journée, selon le classement, je suis plus qualifié au JO et c'est fini quoi.
Non mais
je suis pas énervé, je suis vraiment sidéré. Parce que c'est... Bon après c'est du sport, mais je sais pas, c'est le 350e mondial, j'étais bien sur les mains, c'est moi qui lance la prise, je le charge. En plus là, quand vous êtes tête de série, que vous perdez, tout le monde vient vous dire « Ah mais non, l'arbitre il aurait pas dû faire ci, ça ». Vous voulez que je vous dise quoi? C'est moi, je fais cette prise, je sais pas, 100 fois par semaine depuis 10 ans. Et là, je la fais, c'est dégueulasse. Écoutez, on est rentré à l'appart. L'entraîneur du mec qui m'a battu est venu me parler après. Il m'a dit qu'il n'y avait pas Hippon. Il m'a dit qu'il n'avait pas gagné un combat en 4 ans. Donc je pense que c'est juste pour m'anéantir. J'allais me coucher. Et je vais vous laisser avec le message vocal de la mère de Lockman, qui est mon seul faisceau de lumière dans le week-end.
Ouais, donc j'ai bien eu ton message. Bon, bah écoute, bon courage Valentin. J'espère que tu m'écoutes. Donne tout hein, demain. Et puis je vais demander à Lockman qu'il m'envoie la vidéo. Hors de question de revenir sans médaille, sinon tu ne mets plus les pieds à la maison. Voilà, bon allez, force à toi, gros bisous, et puis bah, vous êtes tout beau là avec vos tresses, c'est bien. Allez, ciao, ciao.
Et on est toujours avec Aurélien Dies pour la toute dernière partie de l'émission. Vous, sur ces médailles, on est d'accord, la couleur que vous visez, c'est l'or.
Il y a un bondinois qui disait j'affiche mon ambition. Ça veut pas dire que je vais y arriver, mais en tout cas, ça veut dire que j'allais travailler pour. Ouais, forcément, c'est mon but à moi, c'est de créer en sorte une petite surprise en récupérant ce beau métal doré et si possible en équipe, parce que au niveau numéraire, je parle des chiffres comme d'habitude. Ce serait possible de sortir avec deux belles médailles d'or avec cette épreuve par équipe mixte. Donc si le soir du 3 août, tu es avec deux médailles de couleur jaunâtre, il y aura le plus beau sourire sur mon visage.
Alors, en tout cas, je sais pas si vous aurez l'or, mais vous êtes fait en or, mon cher Aurélien.
Merci beaucoup de nous avoir
accompagnés pendant cette émission. C'était revigorant. Je l'ai dit au début, il est solaire, ce garçon. Et comme on manque un peu de soleil en ce moment, merci infiniment, Aurélien, d'être venu avec vos rayons dans notre studio. Merci à mon équipe du dimanche de la direction des sports, capitaine Alexandre Gilardi, Coy Nguyen à la réalisation et Paola Collin à la technique. Merci Claude.
Merci. Là, et la prochaine fois, c'est Anselme.
Grosse semaine.